I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui s'éloigne un instant de ses chères salles obscures pour s'intéresser à ce qui se fait sur le petit écran. En l'occurrence, on va causer d'un film dispo depuis peu sur Netflix qu'on attendait avec un peu d'impatience puisqu'il signe le retour d'un personnage qu'on aime beaucoup, David Brent, le pitoyable patron de la série culte britannique The Office, le rôle qui a fait de Ricky Gervais la star qu'il est et qu'il ressuscite donc le temps d'un Life on the Road qu'on va disséquer avec les deux entertainers de la critique ici présents, Lelo Jimmy Battista, salut Jimmy, salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et je salue le public présent ici à l'antenne Paris, c'est nos ciné, épisode 75, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
David Brent a donc quitté son bureau pour se consacrer à sa vraie vocation, la scène. Enfin, plus précisément, il quitte pour quelques semaines son boulot de représentant pour tenter en toute modestie de devenir une rockstar grâce à une tournée régionale qui se conclura, espère-t-il, par un juteux contrat. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. La médiocrité du personnage, son sens de l'humour effroyable et sa capacité à sombrer dans la loose la plus totale reprenant rapidement le pas sur ses grandes aspirations.
I like making people feel. I'll get inside your head. Maybe get inside your heart.
Guilty.
Hey.
Hey!
What do you two do?
Work in an office.
Do you?
Tout ça est écrit, réalisé et produit par Gervais, ça se voit un petit peu puisqu'il est littéralement omniprésent dans le film, qui lui n'est pas d'une légèreté folle, c'est ce qu'on pourra dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Stéphane?
Alors moi j'aime beaucoup Ricky Gervais, le comédien, le stand-up comédien. J'aime beaucoup The Office évidemment de l'époque, et j'aime pas trop les films de Ricky Gervais de manière générale, tous les The Invention of Lying, son truc avec le remake du film français là,
oui, Special Correspondent
pour Netflix là, voilà.
Remake d'envoyés spéciaux, envoyés très
envoyé
spéciaux,
trop spéciaux, très spéciaux,
ouais, je voilà, pas, un film avec Gerland quand même à la base.
Voilà. Donc sur le capital sympa, exactement, et Gérard Jugnot me semble-t-il.
Et ouais, ou Patrick Timsit, enfin voilà, l'un ou l'autre.
Et donc c'est quand même le je trouve le moins pire, celui-là, Life on the Road. Aussi parce que je pense qu'il y a le capital sympathie vis-à-vis du personnage, ce qui est quand même un exploit, hein, parce que c'est quand même un gros
con.
Ouais, enfin un gros loser quoi.
Ouais.
Et donc il y a quelques trucs qui fonctionnent sur ces bases-là. Et après. À notre époque, moi, des moments en gros où il dit, où il se met à chanter des chansons engagées pour prendre la défense des handicapés, bah, moi, ça tend sympa à me faire rigoler parce que voilà, il met les pieds dans le plat dans le politiquement correct, quoi. Donc voilà, il y a quelques moments comme ça qui fonctionnent bien, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur du, comment dire. De l'acquis, en fait, sur ce qu'il est capable de faire. Moi, je suis plus intéressé éventuellement par son retour à la stand-up comedy et le tour qu'il va faire, quoi, pour voir ce que ça va donner et comment il va évoluer. Parce que c'est vrai qu'il s'est mis à faire beaucoup de cinéma ces dernières années. Et voilà. Et il y a des trucs chouettes dans les séries qu'il faisait aussi, il y a Extras, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça se perd de plus en plus, enfin, ça se dit de plus en plus, en fait, dans des récits, alors que c'est un stand-up comédien très bon, en fait, dans sa façon de pointer du doigt les problématiques générales, quoi. Et c'est pas quelque chose qui se ressent forcément dans ces films, quoi. Donc, quand ça fait mouche sur certains moments comme ça, les moments où, à la The Office, justement, où en fait il se rend pas compte qu'il est offensif ou qu'il vient de faire de la peine à quelqu'un, il y a quelques moments comme ça, quoi, dans le film. C'est dommage que ça se dilue de plus en plus dans l'idée qu'au bout d'un moment c'est lui qui. Enfin, il y a un moment donné où les gens viennent le voir et ils disent finalement on t'aime bien et on sait pas pourquoi. c'est un des trucs où on se dit mais pourquoi en fait d'un seul coup c'est toi qui deviens le mec sympathique. C'est parce que c'est le cliché du récit, on va dire, qui veut ça, mais c'est jamais vraiment clairement amené, clairement construit. Du coup, moi je pense que Ricky Gervais, c'est son talent, il se consomme sur des durées beaucoup plus courtes que celles de long métrage, quoi. Mais bon, c'est comme, encore une fois, comme il y a un acquis, il y a quelques trucs qui passent. qui font mouche, pour moi.
Jimmy.
Bah, comme Stéphane, j'aime beaucoup Ricky Gervais, je suis hyper fan de The Office aussi. Par contre, contrairement à Stéphane, il n'y a vraiment rien qui m'a fait rire, mais du tout. Je trouve que déjà, il y a un truc, c'est que ça ne respire pas du tout. C'est-à-dire que tout est basé, comme tu disais en intro, sur le personnage de David Brent. Il n'y a pas d'autres personnages, très peu d'autres personnages. Et il est vraiment à l'écran 95% du temps. Et ça ne fonctionne pas. Puis en plus, il veut tellement aller dans le malaise, dans le il appuie vraiment le truc. Et même des fois, il le souligne de manière comme si ce n'était pas déjà assez évident. Il y a une scène où ils sont au resto avec le rappeur et il y a une serveuse noire et bon, il s'embourbe dans un truc hyper raciste. Et le mec en face fait, genre, se prend la tête dans les mains, fait genre, oh là là, la honte. Tu vois.
C'est les réactions dont tu parles.
Ouais, voilà, voilà. Et en fait, il y a un côté, genre, c'est bon, on a compris que c'était le gros malaise, c'est pas la peine d'en rajouter, le mec se fout dans sa capuche, enfin. Et puis même les personnages secondaires, les peu de personnages secondaires qu'il y a sont pas terribles. Enfin, dans The Office, ce qui était bien, c'est que tout était crédible, en fait. Bon, le personnage de David Brent est hyper exagéré, mais il fonctionnait parce qu'il y avait des personnages qui étaient à la fois sympathiques et puis en plus assez crédibles. Là, j'ai l'impression que tout est caricaturé à l'excès et en fait, ça te donne pas envie de suivre l'histoire, quoi. Enfin, moi, si j'avais pas eu cette review à faire aujourd'hui, j'aurais arrêté vraiment au bout de.
Je te rappelle qu'on fait l'émission sur ta proposition.
Oui, alors c'est vrai, je dois m'excuser parce que c'est à cause de moi qu'on le fait, puisque tu avais proposé Santa Clarita Diet à la base, qui est en fait un truc qui ferait passer Desperate Housewives pour pas Irréversible, mais le film Serbian Film. Et en fait, c'était impossible qu'on fasse ça, quoi. Donc j'ai proposé ça.
La tambouille interne.
Voilà, c'est la tambouille interne de nos ciné.
J'avais proposé ça ou Sneaky Pete, et voilà. Je suis sûr que Sneaky Pete est génial. J'ai toujours pas.
Non, mais après, c'est vrai que.
Pour en revenir au film.
Ouais, ce qui est très étonnant, en fait, moi, je suis étonné que ça. Enfin, je suis pas vraiment étonné parce que ça commence à devenir. Enfin, là, ils ont annoncé récemment que le prochain Scorsese allait débarquer sur Netflix directement. Moi, comme je suis un peu un vieux de la vieille, là, j'aime bien aller voir ces films-là au cinéma, à la base. Et y compris, David Brent, je peux pas dire que ce soit du grand cinéma, encore une fois. Mais disons que c'est un événement, puisque c'est quand même le retour d'un personnage qu'on a apprécié. Il y a une époque où sortir, je sais pas, moi, X-Files en salle, c'était un événement aussi, quoi. Donc j'aurais pensé, en tout cas en Angleterre, c'est un film qui est sorti en salle. J'aurais pensé que, vu l'aura actuelle de The Office, même si c'est quelque chose qui a été très très peu diffusé en France correctement, et que c'est le culte du truc qui fait que la version américaine, tout ça.
Il y a une version française aussi. Hein.
Oui, la version française, ça, le bureau avec. Tout à fait, c'est ça, qui était un peu.
Gênante, mais pas pour les mêmes raisons.
Voilà. Et du coup, j'aurais pensé, en fait, justement, que l'aura de cette série. Aurait suffi à attirer le monde.
Faire que le film sorte en salle.
Donc quelque part, il y a quand même une logique un peu événementielle. Bon, c'est un peu la problématique générale dont on revient régulièrement ici aussi. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ressusciter des personnages 15 ans après ? Est-ce que c'est pas une façon de capitaliser vite fait sur un succès établi, quoi ? Moi, comme je vois un peu le schéma Netflix différemment, j'ai toujours l'impression que ça va se perdre dans les heures et les heures et les heures et les heures de contenu qu'on peut amasser à côté, quoi, sur la plateforme, quoi. Donc, du coup, ça enlève l'aspect un peu, l'aspect événementiel qu'il y avait pu avoir quand moi je me suis dit, tiens, il faut un film là-dessus, je vais aller voir la bande-annonce, qu'est-ce que ça va être, etc., etc. Et effectivement, à la fin, quand tu regardes le film, force est de constater que c'est pas un événement, c'est juste c'est pas encore une fois, c'est pas un quick cash histoire de voilà, il a quand même essayé de faire évoluer en tout cas à défaut de faire évoluer le personnage à proprement parler, il a essayé de le faire évoluer dans son milieu social et dans son environnement. De lui redonner une seconde jeunesse en fait par rapport à ce qu'il essaye de faire, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait pu être dans un autre contexte. Il est possible d'ailleurs qu'il revienne dans 10 ans en essayant de devenir une star de cinéma ou un truc comme ça, quoi. C'est ou une star du comique, une star du stand-up, puisque c'est ce qui émet aussi dans la série, quoi. Mais donc voilà, c'est assez. Moi, je comprends qu'on en parle en fait dans l'absolu. Surtout sur les trucs Netflix, en fait, c'est quand même vachement difficile de toutes les trucs de VOD, les trucs. Parce que j'aime civil un peu ça à ça. C'est un peu difficile en fait de d'aiguiller les gens. Donc c'est un peu normal qu'on en parle. De manière.
Bah moi, j'aurais bien aimé écouter cette émission. En
fait. Ah ouais, voilà, pour qu'on te dise non, on ne le regarde pas. Quoi.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce film ? On va faire une émission très très courte, j'ai l'impression.
Le truc, c'est que c'est difficile à dire parce que, encore une fois, alors, en plus, la comédie, c'est quand même un truc qui est très spécifique. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, c'est pas. le voir taper sur le politiquement correct comme il peut le faire par de manière détournée, ça a un sens qui est complètement différent qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire, il y a 15 ans, quand tu regardais The Office, c'était clairement... il était en erreur, en fait. Là, il l'est. C'est peut-être pour ça, probablement, qu'il appuie d'ailleurs sur le truc, c'est qu'il doit garder cette logique-là. Sauf que, comment dire, il y a un moment donné où on est dans un paradigme complètement différent aujourd'hui, et du coup... c'est un truc qui fait que je pense qu'il y a une partie des gens qui en ont un peu marre en fait de se faire taper sur la gueule ou de choisir leurs mots très très délicatement pour pas enfoncer mais littéralement qui que ce soit. Donc ça faisait sens en fait de le revoir venir avec sur ce sujet-là. Puis c'est quelque chose qu'il a toujours fait. Hein, je veux dire, quand tu regardes ses émissions télé, enfin quand tu regardes ses invitations quand il est invité à la télé, il est le premier à dire j'ai perdu du poids par exemple à l'époque, mais il faut arrêter de dire que c'est la dépression, la névrose, le machin, le truc et ça. Non, c'est juste un gros cochon qui veut bouffer et c'est tout quoi, et c'est ce que j'étais et voilà. Donc quand le mec tape un peu sur ces trucs, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas qu'on tape sur les obèses, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas qu'on tape sur ci ou sur ça, sur les croyants, sur enfin tous les sujets, tu te dis voilà, il y avait un potentiel en fait dans ce film qu'il exploite finalement très très peu quoi. C'est-à-dire que il y a les 4-5 sujets le racisme, les handicapés, tu vas m'aider, il y en a sûrement un ou deux autres comme ça qui sont les trucs sur lesquels en fait finalement on pouvait revenir il y a déjà 15 ans quoi. En fait il est pas donc il innove pas vraiment non plus là-dedans, c'est ça le problème quoi. Voilà, donc après c'est vrai que et puis c'est alors c'est
ce
bizarre
est, ce qui est drôle c'est qu'il aurait pu vraiment être vraiment politiquement correct. Enfin là j'ai pas l'impression qu'il essaie juste qu'il ressort des recettes à l'ancienne quoi, qui peuvent marcher hein. J'imagine que moi ça a failli me faire sourire le truc sur les Indiens quoi. Mais parce que ça allait un peu plus loin.
Mais regarde, tu m'en reparles, je me fais un peu sourire, quoi. Tu vois, il y a quelques trucs, mais.
Mais à part ça, je sais pas. Enfin, comparé à ce qu'on peut trouver politiquement correct aujourd'hui, c'est assez. C'est à la fois hyper bourrin parce qu'il appuie trop, quoi. Mais à un point où ça devient même presque cruel. C'est genre, le mec, t'as plus envie de le regarder, ça devient juste triste, quoi. Et en même temps, il zappe des trucs qui peuvent être, pour le coup, un peu innovants, un peu. Qui pourraient peut-être faire avancer le personnage dans l'époque aujourd'hui, parce que The Office, c'est quand même pareil, c'est 16 ans, 17 ans.
Ouais, mais en fait, c'est ce qu'il faut aussi dire sur Ricky Gervais, et là pour le coup, dans ses créations de fiction, hein, pas dans la stand-up, c'est que c'est un très bon. Il a des super idées de films. C'est-à-dire, alors, je parle pas de.
Special Correspondence.
Voilà, quand il adapte les films français, parce que là, évidemment, t'es perdu d'avance. Mais le truc,
on
c'est
va
que.
Encore avoir des messages sur Facebook qui nous disent vous dites du mal tout le temps des trucs français.
Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'on va aller voir plus de films français qu'on va changer notre optique sur les films français. C'est précisément parce qu'on a vu des films français qu'on parle des films français comme ça. Mais le truc, c'est que. Enfin, j'ai schématisé, évidemment.
On aura compris.
Ne commentez pas, s'il vous plaît. Mais le truc, c'est que, par exemple, The Invention of Lying, c'était un super concept. C'était un monde, en fait, où je me demande si c'est pas sa première réalisation, peut-être sa deuxième,
c'est
je possible. Sais plus.
C'est une des premières, en
voilà,
tout cas.
Et le concept était super. C'est dans un monde où personne ne ment, lui commet le premier mensonge. Et en fait, il dit qu'il est Dieu. Et comme personne ne ment, tout le monde le croit. Et Dieu, c'est donc Ricky Gervais, qui est le bon voilà, le gros fouteur de merde qu'il était déjà à l'époque, quoi. Et voilà, The Office, c'est pareil. Enfin, quand tu regardes le concept de The Office, c'est un documentaire qui vient filmer une. Voilà, ça a été fait, mais des millions de fois depuis. Ça a été fait avec les Muppets, quoi. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, c'est que tu te dis que le concept est assez fort, assez brillant pour être compris, digéré, intégré et donné de séries amusantes aussi, quoi. Bon, maintenant, faut peut-être arrêter un peu, mais il faut passer à autre
ça
chose.
Ça commence à être usé.
Voilà, mais voilà, il a des vrais concepts comme ça. Mais par contre, comme c'est pas un cinéaste, comme c'est pas un. Même pas, je dirais, un vrai scénariste de cinéma pur, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de transformer ça et de l'intégrer totalement dans un récit. Bah, du coup, en fait, il a ce capital sympathie d'un côté où on se dit on va aller le voir parce que c'est Ricky Gervais. On aime Ricky Gervais quand il apparaît chez Jimmy Fallon, ça y est, ça bouge un peu. Quand il est chez Conan O'Brien, c'est marrant, etc. etc. Et ou simplement quand il fait ses stand-up, mais là ça fait un moment qu'il en a pas fait. Voilà, c'est il est super quoi. C'est juste que toute l'or qui peut avoir, en fait toute la matière en fait qu'il peut avoir en tant que comédien pur, en fait il la transmet pas dans quelque chose de purement fictionnel en dehors des concepts forts extras. Pareil, c'était un super concept quoi.
Sur les comédiens de second rôle, voilà, qui apparaissent en figurant, en fait.
Ouais, les figurants en fait du cinéma et qui essayent de percer, qui essayent de devenir des stars et en l'occurrence dans c'est un peu le truc de sa vie, c'est que dans Extras en fait il devient un comédien de sitcom pourri, alors que le mec se destine à, comment dire,
à une
être
grande carrière.
Voilà, voilà. Il devient plus ou moins Benny Hill, en gros, un truc comme ça, quoi, et tout le monde se fout de sa gueule, quoi. Et le prend pour un pédant, enfin pas pour un pédant, mais pour un beauf, quoi. Donc voilà, il y a plein de il a plein de super idées comme ça, et Extras, ça fonctionne très bien, je trouve, sur 20 minutes, comme The Office, ça fonctionnait très bien sur 20 minutes, mais c'est pareil. Le truc de The Office, c'est que c'est quoi? C'est deux saisons. 6 épisodes à chaque fois. Voilà, et c'est réglé, c'est taillé. The Office version américaine, c'est 7, 8, 9 saisons, et au bout d'un moment, ça se perdait complètement. Mmh. Quoi. Donc ouais, c'était plus tenu, et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui chez lui, j'ai l'impression. Et ce qui est dommage, et en l'occurrence, en fait, The Invention of Lying, ça, il avait fait un autre film qui s'appelait Cemetery Junction, qui était beaucoup plus sérieux sur sa jeunesse en Angleterre. Bah, c'est des films en fait qui ont eu une très petite diffusion en France, voire quasi inexistante en vidéo. Il fallait aller le payer 20 balles en fait pour le voir, quoi. Alors que là, bon, l'avantage c'est qu'on s'en rend compte sur Netflix directement. Ça arrive de manière beaucoup plus large quand on va le chercher. Et c'est vrai que force est de constater que
le format long n'est pas voilà, ce qui sied le mieux.
Exactement.
À Ricky Gervais. Pour terminer, messieurs, on va prendre quand même le temps de quelques recommandations, même si on a beaucoup parlé de l'univers de Ricky Gervais. On peut peut-être d'ailleurs s'en éloigner un peu. C'est comme vous voulez, Jimmy.
Moi, je conseillerais un spectacle de stand-up, un comique qui s'appelle Anthony Jeselnik, pour rester dans le politiquement correct, politiquement incorrect plutôt. Lui, il a vraiment un truc aujourd'hui actuel et nouveau. Enfin, c'est un gars qui vient du Saturday Night Live. Et c'est un spectacle qui s'appelle Thoughts and Prayers.
Qui est sur Netflix.
Qui est sur Netflix d'ailleurs. Qui est un spécial produit par Netflix. Ouais. Et le truc, c'est qu'il parle très lentement. Les blagues sont très minimalistes, mais elles sont hyper violentes. Et pour moi, c'est plus ça que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, plutôt que un truc hyper appuyé, quoi. Et bon, après, je peux pas vraiment raconter, puisque si j'en sors une, ça vous grille une super vanne.
Voilà. Puis ça va tomber à plat, donc ça va être
sans doute, ouais.
Stéphane.
Moi, j'ai conseillé. Alors, si vous êtes, si vous parlez anglais. Parce que je pense pas qu'il y ait de traduction. C'est Talking Funny sur HBO,
ouais.
Qui était donc une réunion, en fait, ça dure une 50 minutes, 45-50
ouais,
minutes,
ça, voilà, près, ouais.
Entre Chris Rock, donc Ricky Gervais, ouais. Jerry Seinfeld et Louis C.K., qui parlent tout simplement de l'art de la comédie stand-up, quoi. Et donc, Ricky Gervais est très drôle aussi. Mais c'est aussi un bon moyen de constater que c'est quand même quatre personnalités complètement différentes. Et par exemple, un Ricky Gervais est beaucoup plus agressif que et voir Louis C.K. aussi, ils sont beaucoup plus agressifs qu'un Jerry Seinfeld.
Oui.
Mais c'est là où tu te rends compte en fait que malgré tout, t'es pas obligé d'être dans le trash absolu, dans le voilà. Et c'est vraiment un art consommé vraiment. Et le truc c'est que c'est là où tu te rends compte qu'un mec comme Jerry Seinfeld, il les maîtrise tous en fait. Il y a un moment
d'ailleurs, il le lui rend bien parce qu'il l'idolâtre tous plus ou moins.
Il l'idolâtre, mais c'est surtout que le meilleur truc en fait qui puisse arriver, c'est qu'il sort juste une petite vanne à un moment spécifique et les mecs sont morts de rire pendant 3 minutes.
C'est lui qui gagne le
c'est lui
le
qui
jeu
gagne à la
fin.
Voilà. Et donc si vous êtes intéressé par la stand-up comedy, comme c'est mon cas en l'occurrence, voilà, moi je vous conseille ce truc. C'est pas très vieux, enfin c'est pas très récent, ça a 3-4 ans quand même.
Quelques années,
voilà.
Ouais, ça se trouve facilement sur YouTube, mais on mettra le lien.
Ouais, Talking Funny sur HBO.
Talking Funny, il y a la meilleure blague à base de Sitting on the Dock of the Bay.
Bah, exactement, voilà, mais tu spoil.
C'est magnifique, je spoil pas trop quand même. Notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Seb, à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil, merci au public qui avait fait le déplacement. Rendez-vous sur notre site nociné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Aussi, si vous voulez venir nous voir, info à retrouver sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast, à lui laisser une bonne note si ce n'est pas déjà fait. On vous le rendra au centuple, c'est promis. Puis en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.